enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Le message pour aujourd'hui s'intitule « Porter du fruit en toute saison ». Et donc pour les érudits de la parole de Dieu, nous trouvons un passage très important pour nous dans Jérémie 17, les versets 7 et 8. Et on va prendre le temps de lire certaines choses et on va prendre le temps de voir où elles sont. Parce que ça fait toute la différence entre certains raisonnements humains. Parce que des fois on raisonne sur des choses naturelles. On dit oui, mais c'est naturel, c'est l'ordre des choses. Regardez la nature, par exemple. Toutes les saisons ne sont pas les mêmes sur Terre. Il y a des changements selon les climats. Il y a des endroits où il fait jour plus longtemps et nuit plus longtemps. Donc ça peut être très variable. Mais donc il est important pour nous qu'on puisse réaliser que nous n'avons pas à calquer nos comportements sur certains raisonnements qui en fait sont des raisonnements erronés. Comme par exemple de dire, bon ben voilà, il y a des saisons favorables, des saisons où ça va bien, et automatiquement il y aura des saisons où ça ne va pas. Et donc, parce que Jérémie 17 nous dit la chose suivante, on lit seulement à partir du verset 7. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Porter du fruit en toute saison est donc possible. C'est possible parce que la parole de Dieu nous le dit ici. Et on ne peut pas dire simplement, bon, c'est normal, c'est parce que je traverse des difficultés, parce que ceci, parce que cela. Nous ne sommes pas appelés à vivre une certaine norme qui serait la moyenne de ce que vivent les gens autour de nous. Nous sommes appelés à regarder qu'est-ce que Dieu nous propose, qu'est-ce qu'il nous promet. Et ici, il nous promet, je trouve, quelque chose de merveilleux. Que même si autour de nous ça ne va pas, nous pouvons néanmoins, parce que nous sommes reliés à la source de vie qui est Dieu lui-même, nous pouvons porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. Quel est ce fruit? Ce fruit est très concret pour nous. C'est quelque chose que nous sommes appelés à porter tous les jours en tant que chrétiens. Galates 5 nous décrit le fruit de l'esprit. Est-ce que dans le fruit de l'esprit, nous pouvons voir un type de comportement que nous allons adopter? Par exemple, certaines manifestations que les gens pourraient appeler simplement des sentiments, mais c'est plus que ça. C'est le résultat de l'action de l'Esprit de Dieu en nous. Galates 5, 22 nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est le résultat de ce que Dieu fait en nous. Quand nous sommes dans le naturel, on est comme tout le monde. On peut, au lieu de manifester l'amour, si quelqu'un nous fait du mal, ben on lui en veut. Au lieu de connaître la joie, quand il y a quelque chose de travers, on est abattu, on est triste. Au lieu d'avoir la paix, on peut s'inquiéter, on peut se faire du souci. On peut s'impatienter. Vous prenez toutes les composantes du fruit de l'esprit, vous les prenez à l'envers, vous dites, oui, qui n'a pas expérimenté dans un domaine ou un autre l'inverse de ce que la Bible dit qui est le meilleur pour nous? Mais ce qu'il nous faut, c'est prendre conscience que je ne dois pas accepter cet état de fait comme normal. Je ne dois pas me dire, ben, c'est parce que je passe une période difficile. Parce que justement, c'est comme ça qu'on pourrait définir les années de la sécheresse. C'est pas ça? Quand ça va mal autour de nous, il n'est pas dit, quand tout va bien pour vous, alors c'est facile et alors vous manifestez. C'est notre défi à chacun de nous. Quand vous dites, Vraiment, là, moi, je n'ai pas envie de me réjouir, je n'ai pas envie de ceci, de cela. Vous devez poser la question, pourquoi? Est-ce que vous ne pourriez pas relever le défi de dire, mais maintenant, je sais qu'il y a des circonstances qui font que ces choses n'agissent pas en moi, mais je peux néanmoins, parce que je veux expérimenter le fruit de l'esprit, parce que je veux montrer que Dieu habite en moi, parce que je veux montrer que j'ai Dieu dans ma vie, ça va faire une différence. Regardez d'autres choses comme la bonté. Qu'est-ce que j'entends des fois? Nous avons un fameux petit proverbe en français. Et des fois, on dit avec humour, votre bonté vous perdra. Quelqu'un a déjà entendu ça? Mais moi, j'ai un autre slogan pour les gens. Il dit, un bienfait ne sera jamais perdu. Et jamais il n'a été dit que votre bonté vous perdra. Moi, je dis au contraire, tout acte de bonté va voir un jour un résultat positif pour n'importe quelle personne qui le fait. Parce que la bonté, elle vient de Dieu, qui est Dieu et bon, et 100% bon. Donc, il faut qu'on puisse mener, c'est ça le vrai combat spirituel, c'est pas une espèce de truc bizarre où on croit qu'on fait le bras de fer avec des forces démoniaques. Le combat spirituel, c'est de combattre des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu et de les remplacer. Quelqu'un vous dit, votre bonté vous perdra. Vous n'avez peut-être pas un verset de la Bible, et des fois, il vaut mieux ne pas utiliser le verset de la Bible, mais utiliser la pensée de Dieu, même si elle n'est pas formulée comme ça. Et dites, mais pourquoi voulez-vous que ce soit comme ça? Comment un acte de bonté pourrait-il changer en votre défaveur? Reprenez par exemple la bienveillance. Dans les vieilles traductions de 1910, on avait la bénignité. Donc on a déjà détaillé bénignité, quelque chose de bénin. On parle de maladies bénignes. Ce sont des maladies de petite importance, sans gravité, et en général, on en guérit relativement facilement. Dans quoi la bénignité est-elle en rapport avec notre vie de tous les jours? C'est de ne pas s'attacher à des petites choses qui veulent vous empoisonner la vie, mais qui finalement, si vous dites, oh, ça c'est pas grave, laisse passer. Au lieu de nous empoisonner le quotidien. Et prenons justement ce mot bénignité a été rendu aussi dans des traductions plus récentes, la bienveillance. Et là, on peut le voir s'appliquer dans nos relations les uns avec les autres. Si au lieu de voir, tiens, là, il y a une petite chose qui me dérange chez lui, chez elle, fait toujours comme ça, ou elle dit ceci ou cela, et donc de dire, au lieu de prendre attention à ça, passons par-dessus, soyons bienveillants, veillons au bien de l'autre et donnons-lui du crédit. Dans 1 Corinthiens 13, il y a des détails de ce que l'amour fait, il ne soupçonne pas le mal, il croit tout, il espère tout. Soyons conduits par cette façon de réagir. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas être mollasson et laisser tout passer. C'est au contraire un acte de force. On dit « je surmonte ça ». Au lieu de me laisser aller, et ça aide beaucoup aussi dans le quotidien, ces choses mises en pratique changeraient la vie de foyer, de couple, d'entreprise, d'équipe de travail. L'évangile appliqué apporterait toutes les solutions dont le monde a besoin. Mais seulement, il y a quelque chose qui s'y oppose, c'est évident. Alors, on a aussi la foi dans cette version rendue par la fidélité dans une autre. Mais ça va de pair quand on est capable de faire confiance, on s'engage envers quelqu'un, toutes ces choses, on peut l'imaginer dans un contexte de deux personnes qui s'aiment et qui veulent se faire confiance, qui sont attachées l'une à l'autre. Et la douceur est aussi prise comme une qualité qui montre de la faiblesse, mais ce n'est pas vrai. Il faut être très fort pour surmonter une agression par de la douceur. Et au lieu de répliquer à quelque chose qui vous a été dit méchamment, vous êtes capable de répondre avec une parole posée, gentille, apaisante. Ce n'est pas que vous soyez incapable de répondre, mais il est plus facile d'alimenter la dispute que d'essayer de calmer la situation et d'amener les autres vers une vraie solution de compréhension et d'écoute. Et la maîtrise de soi, il y en a qui essaient de développer par toutes sortes de techniques psychologiques et autres la maîtrise de soi. Mais ici, il nous est dit, ces choses sont le résultat de notre vie avec Dieu. Pour moi, plus j'y réfléchis, je me dis, ce n'est pas étonnant. Nous sommes créés par Dieu, il est l'origine de toute vie. Être coupé de lui, ne pas recevoir de lui, ne peut apporter que la mort, la destruction, le désespoir, etc. Il est plus que jamais, c'est même pas une question de religion, c'est une question de bon sens. Si on est coupé de celui qui a l'origine et le créateur de la vie, qu'est-ce qu'on peut encore espérer? On est comme un véhicule où le moteur serait cassé, il continue de rouler pendant un moment, parce qu'il est sur sa lancée, mais il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Un jour, il va s'arrêter. Donc, pour nous, qu'est-ce que c'est porter du fruit? Porter du fruit, c'est de penser que le fruit qui est en nous transmet la vie. Quand vous portez du fruit pour Dieu, partout où vous allez, vous apportez la vie même de Dieu. Le fruit, dans le naturel, c'est ce qui transmet la vie. Le fruit est donné pour... vous prenez la pomme, bien sûr, on peut en manger, des pommes, mais la pomme sert normalement aussi qu'il y ait de nouveaux pommiers. Et le pommier ne mange pas son propre fruit, hein. Un pommier ne mange pas de pomme. Donc, la pomme, le fruit est là pour transmettre la vie. Il se trouve que Dieu a inventé ce système pour qu'en même temps, l'homme puisse manger du fruit de la création. C'est prévu comme ça. Et pour ça que nous sommes des êtres à la fois esprits, mais nous avons aussi reçu un corps pour pouvoir habiter dans ce monde. Et nous sommes génétiquement proches de certains aspects de la création pour que nous puissions absorber les aliments et pour qu'on puisse se nourrir de ça. Donc le fruit, c'est ce qui transmet la vie. Le fruit, c'est aussi, des fois, on dit le résultat d'une action. Quand on dit, voilà, le fruit de mes efforts, c'est ceci, cela, c'est-à-dire c'est un résultat. C'est quelque chose qui transmet la vie et c'est quelque chose aussi qui est le résultat. Pour aller plus loin, l'action, elle vient de où? L'action, c'est le fait que nos décisions deviennent concrètes. On peut réfléchir à des choses, on peut rêver pendant des années, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, mais un jour, il faut se mettre ce projet, le prendre à cœur et faire le nécessaire pour que ça aboutisse. C'est ainsi que nous avons dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » La mort et la vie. Et là, c'est quelque chose de tellement important. On réalise que la Bible est en train de nous dire le pouvoir de la langue. Ce que nous disons, les mots peuvent apporter la vie ou apporter la mort. Pour nous-mêmes ou pour d'autres. C'est pas forcément la mort physique. Vous n'avez pas une espèce de pouvoir de mort. Si vous dites une parole avec votre puissance spirituelle, vous allez maudire quelqu'un, il tomberait de mort. Simplement, vous pouvez tuer une relation. Vous comprenez ça, c'est facile, hein. Dites une méchanceté, ben, ça casse quelque chose, il y a une blessure. Donc, porter du fruit, nous sommes porteurs de beaucoup de choses. Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Mais à un moment, il a dit ici, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Il a dit, si le sel perd sa saveur, ça sert à quoi? On ne peut plus rien en faire. Donc, si les enfants de Dieu ne sont pas en train de porter du fruit, à quoi ça sert? Nous sommes là pour ça. C'est notre raison. On n'est pas là juste pour occuper la terre. De la même façon que vous n'êtes pas là à l'église pour chauffer une chaise, ni un banc. Ce n'est pas l'utilité. La chaise et le banc n'en ont pas besoin. Être là pour une seule raison, c'est pour que vous puissiez porter du fruit. Jésus l'a défini de cette façon, il a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous voulez voir où c'est? C'est dans Jean 15. J'ai déjà eu l'occasion de dire à certains moments, c'est que dans la Bible, spécialement dans le Nouveau Testament, quand Jésus parlait aux gens, on avait une population qui était encore assez proche du monde agricole, des cultures, de l'élevage, de ces choses-là. Il prenait souvent des exemples que peut-être certains de nos contemporains ici, citadins, sont un peu éloignés de ces choses. Dans Jean 15, il nous parle de la vigne. Alors, vous n'êtes peut-être pas ni viticulteur, ni habitant quelque part où on fait du vin. Mais Il suffit d'une petite explication et on comprend très facilement. Il dit « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». Le cep, c'est le pied de vigne, d'accord ? C'est de là que vient la force de la vigne. Et il dit « Vous êtes quoi ? Les sarments. Vous êtes les branches. Si vous pouvez comprendre ça, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Ce n'est pas normal qu'un sarment ne porte pas de fruits. Le sarment est destiné à ça. C'est sa raison d'exister. C'est son sens à la vie. S'il n'a pas ça, il ne sert à rien. Et nous sommes les sarments de Dieu. Nous sommes, dans la mesure où nous sommes connectés à Dieu, nous portons du fruit. Sinon, on ne porte pas de fruits. Et ce qui est particulier au niveau de la vigne et des sarments, plus que certains arbres, vous pouvez couper une branche, peut-être une grosse branche. Il faut attendre longtemps jusqu'à ce que le bois soit sec, que vous puissiez l'utiliser pour autre chose, pour le chauffage ou pour quelque chose. Mais avec les sarments de vigne, alors là, ça dessèche presque, on pourrait dire instantanément. C'est très, très rapide à dessécher. Et c'est pour ça que le Seigneur a employé cet exemple et pas un autre. Alors que il a utilisé beaucoup d'illustrations parlant des arbres, de ceci, de cela. Mais ici, il parle du sarment pour illustrer cet aspect. S'il ne porte pas de fruits, on le coupe et il est mort. Il est sec, il ne sert plus à rien. Il peut juste s'en servir pour démarrer un feu et encore, ça ne dure pas longtemps. Donc, c'était pour montrer cette absolue nécessité qu'il y ait non seulement le fait que le sarment soit vraiment attaché au cep, mais en plus qu'il porte du fruit. Nous sommes donc une sorte d'arbre spécial, parce que les exemples ne sont jamais parfaits, vous n'êtes pas un arbre, hein, c'est clair, mais nous sommes spéciales dans le sens que nous pouvons choisir si nous laissons la vie de Dieu couler ou non. Je ne sais pas si un sarment est capable de ça. C'est peut-être des bizarretés de la nature qui font que quelque chose est mort et ne communique plus la vie. Mais pour nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons choisir. Parce que qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure ? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous pouvez choisir ce que vous allez aimer le plus. Est-ce que vous allez aimer la vie ? Alors faites en sorte que votre langue participe à la vie, que les choses que vous dites participent à la vie, et que cette vie de Dieu coule en vous, pour que vous continuiez d'être lumière du monde et celle de la terre. Continuons dans le sarment. Alors qu'est-ce qu'il fait ? S'il y en a un qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et s'il y a un sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Terme technique émondé, couper certaines choses inutiles, le réduire, tailler, pour que ce qui va pousser puisse porter plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La pureté, elle n'est pas naturelle. Très rapidement, l'être humain sort de l'innocence. Assez rapidement, l'être humain, même petit enfant innocent, commence à faire des caprices, des colères, et dire non, et ne pas vouloir ce qu'on veut pour lui, qui pourtant est bien. Et donc, assez rapidement, on peut dire que l'être humain, il a en lui cette capacité de péché. Péché, ça veut dire rater le but, faire des choses qui ne sont ni bonnes pour nous, ni pour les autres. Et donc, la pureté, elle vient où maintenant ? Elle vient de Dieu seul. À cause de la parole, on dit que l'eau, c'est l'eau de la parole. C'est quelque chose qui nous lave, qui nous purifie. Les paroles de Dieu ont une action en nous pour nous faire retrouver la pureté que nous n'avions plus. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. On a cette capacité de choisir de demeurer. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. On a beaucoup parlé de ça, on en parle souvent dans l'Église, demeurer, il faut demeurer en Dieu, demeurer. Mais quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Demeurer en Dieu, ce n'est pas juste à un moment du culte, avoir quelques minutes merveilleuses où on sent l'onction et la présence de Dieu. Demeurer en lui, ça veut dire chaque jour, au quotidien, prendre les bonnes décisions pour être conforme à ce que lui veut pour nous. La conformité à Dieu est dans Galates 5, on a vu, voilà ce qu'il veut. Réagissons quand on a l'occasion de choisir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, plutôt que l'inverse de toutes ces choses. Et on va expérimenter quelque chose qu'on pourrait des fois qualifier, mais c'est le paradis, c'est le ciel sur la terre, c'est comme quand on vit de très bons moments. Et bien la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, ces très bons moments peuvent se renouveler, ils peuvent même durer, et on peut vivre finalement heureux toute sa vie. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile et que ça va tout seul, mais ça veut dire que nous pouvons porter ce genre de fruits. Alors, pour rester toujours dans nos comparaisons d'arbres, on ne va pas prendre beaucoup de temps, mais simplement, je vous rappelle que Ézéchiel 47, nous avons cette vision du torrent qui jaillit du sanctuaire, de l'eau sort d'une maison. C'est une maison, on comprend que c'est une maison spirituelle où Dieu habite. L'eau descend, et voilà ce que l'eau fait, se transforme en torrent. Et un peu plus loin, il nous est dit que cette eau, verset 8, elle va couler, elle va descendre dans la plaine, elle va entrer dans la mer, et lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Et ici, comme dans Jean 7, l'eau, le fleuve de vie, sont une image de l'action de l'Esprit de Dieu. Alors quand cette eau du torrent va où? Dans la mer est une image de l'humanité. Comme quand vous avez une grande masse de personnes, on parle des fois d'une marée humaine. Donc ici, c'est une image symbolique de la mer, c'est comme cette marée humaine qui a besoin, parce que les gens ils souffrent, ils sont malades, ils sont tourmentés de toutes sortes de choses. Et il nous dit, quand ce torrent vient, il assainit cette marée humaine. Et qu'est-ce qu'il fait? Cette eau, non seulement elle coule et elle est assainie, mais il nous est dit, tout être vivant qui se meut, vivra partout où le torrent coulera. L'être vivant, il vivra. Vous pouvez avoir plusieurs catégories de vie. Vous pouvez avoir une vie misérable, moribonde, juste survivre. Voilà, vous pouvez avoir cette image de cette eau apporte maintenant beaucoup de choses bonnes. Il nous est dit qu'il y aura une grande quantité de poissons. J'ai dit cette marée, c'est comme cette grande masse de l'humanité. Et Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ici, les poissons sont identifiés aux êtres humains qui sont là comme une grande masse, et il nous est dit, il y aura une grande quantité de poissons. Cette fois-ci, non pas pour manger, mais de dire, on va les pêcher, on va les sortir de cette situation où ils sont. Partout où l'eau arrivera, les eaux deviendront saines. Tout vivra partout où parviendra le torrent. Ensuite, il nous est dit, un peu plus loin, qu'il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, ils seront très nombreux. Dans la Bible, il y a des fois des choses qui sont à plusieurs niveaux. Vous pouvez avoir des applications pratiques, locales, physiques, que vous pouvez dire, voilà, c'est à tel endroit que ceci va se passer, c'est prophétique. Et en même temps, un autre niveau, c'est spirituel, et c'est une annonce de choses qui vont se faire. Et il nous est dit, au verset 12, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Donc là encore, on revient à cette notion de fruit, cette notion de pas seulement du fruit une fois par an, et encore, des fois on a de la chance quand c'est tous les ans, parce qu'il y a des arbres qui ne produisent pas tous les ans, mais ici, une vie abondante, une vie surnaturelle, qui se répète, qui se renouvelle. Donc, on peut se poser cette question de la sévérité. Est-ce qu'il y a une sévérité de Dieu pour ceux qui ne portent pas de fruits? En tout cas, il n'y a pas vraiment une sévérité dans le sens que Jésus se mettrait en colère. Mais il faut bien comprendre, dans Marc 11, 12, il nous est dit, le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Alors, à ce moment-là, Jésus a prononcé une parole qui a fait que ce figuier, il nous a dit plus loin, s'est desséché à l'instant même jusqu'à la racine, entièrement desséché. Et plus jamais personne n'a pu manger de ce fruit. Simplement parce qu'il avait faim, il a cherché du fruit, à ce moment-là, il n'en a pas trouvé. Mais Jésus n'était pas injuste à l'égard de ce pauvre arbre, qui n'y pouvait rien peut-être, je ne sais pas. Mais ce qui est plus important que l'existence de ce figuier, c'est la leçon que nous tous pouvons en tirer encore maintenant. Quand Jésus vient à nous, il veut voir du fruit. Il aimerait voir ces fruits qui sont beaux, qu'on a détaillés. Et s'il ne les voit pas, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas nous maudire. Hein. Il va dire, si c'est comme ça, ben terminé. Non, parce que nous avons une autre parole, il dit, il est plein de compassion, il dit, prends patience, on va s'en occuper, peut-être à l'avenir donnera-t-il. On pourrait le lire dans un passage, il est dit qu'il y avait aussi un homme qui voulait voir du fruit à son arbre, il n'y en avait pas. Mais donc, ici, il nous est dit l'explication naturelle. Ce n'était pas la saison des figues. Mais néanmoins, Jésus savait, il connaissait les figuiers, il sait comment ça marche. Certains figuiers portent plusieurs fois par an. Mais l'important, c'est que nous puissions maintenant retirer l'illustration pour notre propre vie. Il vient à nous, il s'attend à avoir du fruit, parce qu'il sait ce qu'il a fait pour nous. Il sait qu'il nous en a donné les moyens. Il ne nous laisse pas sans possibilité. Et il y a cette patience de Dieu qui agit à notre égard. 2 Pierre 3,8 dit, « Il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Il y a une différence énorme entre notre conception du temps et celui de Dieu. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas que la mort agisse en nous, mais il veut que la vie de Dieu agisse en nous. Il veut que tous arrivent à la repentance. Repentance, nous avons besoin de repentance chaque fois que nos idées sont erronées. Repentance, ça veut dire changement de mentalité. Je pensais ça, en fait non, ça ne m'amènera nulle part. C'est un raisonnement erroné. Donc on a besoin de cette repentance. Pour le Seigneur, il est aussi normal qu'un petit arbrisseau doit d'abord grandir. Il ne porte pas du fruit instantanément. Et il va voir que si vous êtes jeune chrétien, vous avez des tas de choses à apprendre, vous avez encore peut-être certaines mauvaises habitudes, parce qu'on a toujours fait comme ça, ou on a toujours parlé comme ça. Donc, il est normal que ça prenne du temps pour changer. C'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'après des années, certains acceptent des mauvais comportements, des mauvaises habitudes, et disent « je suis comme ça ». Et ne laisse plus Dieu les changer, parce qu'on peut changer. Et pour cela, il y a aussi des paroles, des fois, qui sont plus dures. Et dans Hébreux 6, 4, il nous est dit « Il est impossible que ceux qui ont été, une fois éclairés, ils ont goûté le don céleste, ils ont eu part au Saint-Esprit, ils ont goûté la bonne parole de Dieu, les puissances du siècle à venir, et ils sont tombés, parce qu'on peut tous tomber, trébucher, faire un faux pas, ou des fois on n'est pas comme il faudrait. Mais il nous est dit, certains ne peuvent pas être encore renouvelés et amenés à la repentance, parce que c'était comme s'ils crucifiaient pour leur part le Fils de Dieu. C'est comme si le sacrifice de Jésus devenait inutile pour eux. Et il nous donne de nouveau une explication naturelle. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite, on finit par y mettre le feu. C'est-à-dire que la nature de quelqu'un peut aussi se révéler si, malgré tous les efforts qu'on fait pour l'arroser dans le bon sens du terme, lui apporter de bonnes paroles, l'encourager, etc., ça produit toujours que des épines et des chardons. Là, on comprend l'image. Alors, il est dit, au bout d'un moment, ben, on ne sait plus quoi faire. Ce n'est pas qu'on ne voudrait pas, mais au bout d'un moment, on a tendance à se lasser. C'est comme si vous essayez de développer une amitié. Une amitié ne peut pas être à sens unique. Si vous êtes toujours celui qui fait le premier pas, vous allez vers l'autre, vous lui pardonnez tout, etc., mais qu'il n'y a jamais de retour, au bout d'un moment, il y a une lassitude. Ce ne sera pas une bonne chose, ça ne mène nulle part. Et donc ici, on a aussi cette illustration. Et il nous a dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est tout plein de passages, il y a plein de choses, on pourrait méditer et expliquer pendant des heures, mais je voulais quand même vous les lire parce que moi, ça me fait toujours du bien de relire ces promesses de Dieu. Mais donc, rappelons-nous, qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? Il attend qu'on demeure en lui. Hein? On a lu Jean 15, on a lu, et cette fois-ci je lis un autre petit passage, il nous est dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Même une promesse pour la réponse aux prières. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Tout le monde peut dire « je suis chrétien », mais ce que Dieu cherche, ce n'est pas simplement des chrétiens ou des personnes qui disent qu'ils le sont. Il cherche des disciples, de voir est-ce qu'il y a un changement dans la façon dont on agit. Les disciples, c'est plus que simplement des auditeurs. Si vous pensez en arrière, bon, il y a dans beaucoup de civilisations, il y avait toujours des maîtres à penser et des disciples. Mais si on pense à la Grèce, dans certaines villes, Athènes ou d'autres, il y avait beaucoup de philosophes, de penseurs, il y avait leurs disciples qui les suivaient. Peut-être beaucoup de gens écoutaient les discours de ces personnes. Mais certains, on peut dire, étaient plus proches d'eux, ils étaient attachés à eux, et ils étaient surtout capables, au bout d'un moment, d'avoir assez suivi l'enseignement du maître pour le redonner. Et ici, dans notre cas, c'est pas seulement d'un enseignement qu'on parle. Il nous a dit, si vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. Si vous êtes capable, comme Jésus, de porter le fruit de l'Esprit, alors vous montrerez par là que vous êtes vraiment disciples. Vous voulez être disciples? C'est une bonne chose. Alors on va déclarer ensemble. C'est bon de porter du fruit. Je porte du fruit pour les autres. Rappelez, le pommier ne mange pas de pommes. Hein? C'est simple, le pommier, jamais un pommier a mangé de pommes. Donc, Dieu porte du fruit pour les autres, Dieu pour le glorifier. Je porte du fruit pour Dieu, pour le glorifier. D'accord? Je porte du fruit pour les autres. Deux points. Dieu pour le glorifier. La famille de Dieu pour leur faire du bien. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour leur donner envie du royaume de Dieu. Demeurer en Jésus me fait du bien. Amen.